Bonsoir. Pour terminer cette année 2016 pas légère, je vous propose la rediffusion d'une émission consacrée à Pierre Desproges avec la merveilleuse Dominique Valladier.
Ça peut pas faire de mal.
J'ai un lieu commun qui consiste à dire que ce qui me fait rire, c'est pas un mec qui tombe sur une peau de banane. Ça me fait rire s'il se relève pas, s'il est mort.
Il faut être méchant pour être...
Non. Il faut pas être méchant, mais il faut aussi être méchant. La vie se charge d'être méchante d'elle-même. Et ce qui fait rire, c'est souvent cruel, c'est ce qui se coud. C'est un choc, le rire. C'est un électrochoc, souvent.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous avons le plaisir de vous annoncer que le spectacle va commencer. Veuillez avoir l'amabilité de fermer vos gueules. Merci.
La gloire. Le public, c'est-à-dire vous et moi, encore plus vous que moi qui ne sors jamais, se fait une idée imprécise du sentiment de félicité grandiose ressenti par un personnage public, c'est-à-dire moi, pas vous, quand il est reconnu dans la rue. Cependant, le personnage public se doit de rester humble et lucide face au légitime engouement dont il est l'objet. La première fois que j'ai sorti mon museau de devant la télé pour le mettre dedans, un ami bien intentionné, me voyant un jour ronronner de vanité nouvelle au milieu d'une brassée de téléspectateurs, me fit une remarque que je n'ai jamais oubliée. « Vois-tu, il est important que tu saches que le nombre de gens qui te voient en une seule soirée est à peu près 30 fois supérieur au nombre total des gens qui ont vu Louis Jouvet pendant toute sa carrière. » Il est de fait que si chaque nouvelle célébritouille microphonique, si chaque détenteur de sourire de lavabo pour grabataire finissant méditait un instant cette remarque pleine de bon sens, combien de têtes de cul poudrées resteraient sur leur commode avec humilité plutôt que de s'élever jusqu'à hauteur d'écran. Au cas où je me laisserais aller à me surévaluer l'ego, la rude réalité de mon insignifiance ne manquera jamais de me remettre à ma place. Celle auprès du poêle, au fond de la classe, que j'eus le tort de quitter le jour où j'ai eu les moyens de m'offrir mon premier radiateur avec un chèque de TF1. Ainsi me promenais-je radieux jeudi dernier au rayon lingerie des Galeries Lafayette à l'heure du déjeuner, méditant sur la vanité des choses. J'allais d'un pas moyen dans ces allées exquises, dardant au-dessus de l'intouchable gynécée un œil focus d'homme d'affaires pressé, cherchant le rayon fumeur, quand je vis venir vers moi un couple tout à fait insolite en ces lieux. C'étaient deux vieux et gros glébeux à trogne cuite, extradés du Bas-Poitou par quelques noces à Paris. Ils portaient sur le dos les stigmates indélébiles de 40 ans d'emplette aux « Dames de France » de Chamfleur-sur-Yvonne. Lui arborait une capote apatride où se dandinait sa couenne. Elle, radieuse à l'aube de son troisième âge, blou-bloutait ses excédents dans un deux-pièces montgolfière. Gras dessus, gras dessous, ils obstruaient sans malice l'allée des petites culottes et s'imposaient à moi. Quand ils ne furent plus qu'à un pas de votre serviteur, l'opulente Coco Chamel s'arrêta pile, stoppant du même coup son cromagnon, qui manqua de piquer du nez dans un mannequin enguirlandé de chiffonnerie noire et rouge, plus érotique que 6 semaines à Bangkok. « Ah ben ça alors ! Ah ben vain Dieu ! Ah ben si je m'attendais !» beuglait Supermolle, car c'était elle, dans l'oreille de son brotosaure à betterave. « Qu'est-ce qu'il y a donc, ma vieille » s'interloqua-t-il en regardant dans la même direction qu'elle, c'est-à-dire vers moi. En réalité, elle ne me regardait pas au sens humain du mot. C'était, comment dire, un de ces regards qu'on jette aux objets. Un regard dont, à juste titre, on n'attend rien en retour. Un regard pour bibelot. « Qu'est-ce qu'il y a donc, ma vieille ?»« Bah, tu vois donc pas celui-là » insista-t-elle en le poussant d'une main vers moi. « Mais regarde donc, Raymond, ce type-là, tu vois bien qui c'est ?»« Ah non, qui c'est donc ?»« Mais enfin, c'est le con de la télé !» Et lui, « Oh putain, c'est le con de la télé !» Puis à moi, « C'est bien vrai? Vous êtes le con de la télé ?» Avouez quand même que le con de la radio, c'est moins voyant.
Bonjour ma colère, salut ma hargne et mon courroux.
Vous l'aurez peut-être deviné, aujourd'hui c'est une émission consacrée à Pierre Desproges. Et j'ai l'immense honneur et l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui, pour lire avec moi du Desproges, celle qui a beaucoup travaillé avec lui et qui a été ma professeure au Conservatoire National, Dominique Valadier. Bonjour Dominique.
Bonjour.
J'ai envie de tuer quelqu'un. Ça, c'est urgent. Hein.
Vous allez me dire, et le respect de la personne humaine. Mais où avez-vous vu qu'elle était respectable, la personne humaine? Vous avez entendu penser à un footballeur? Vous avez vu les yeux morts des terrifiants zombies à chapeau mou, alignés devant les chars apocalyptiques des premiers mai moscovites? Avez-vous touché le fin fond de la bassesse au front des marchands de femmes accroupies? Vous vous êtes regardé?
Vous m'avez vu dans la glace?
Alors, on enchaîne. Avec quoi, Dominique?
L'artiste dégagé. Et si je poussais une longue plainte déchirante, pudiquement cachée sous la morsure cinglante de mon humour ravageur? Ah bien sûr, si j'avais cette hargne mordante des artistes engagés qui osent critiquer Pinochet à moins de 10 000 km de Santiago. Mais non, je n'ai pas ce courage. Je suis le contraire d'un artiste engagé et je suis un artiste dégagé. Je ne peux pas être engagé. À part la droite, il n'y a rien au monde que je méprise autant que la gauche. Je suis un artiste dégagé. Ce qui ne veut pas dire que je ne ressens pas les problèmes de mon époque avec la même acuité de cœur que n'importe quel pourri de droite ou de gauche qui se précipite à la télé chaque fois qu'un drame social lui permet de montrer son émotion à tous les passants. Dégagé, oui, indifférent, non. Les injustices sociales me révoltent. Pourtant, les aspirations des pauvres ne sont pas très éloignées des réalités des riches. Les riches, au fond, ne sont jamais qu'une minorité de pauvres qui ont réussi. Les riches forment une grande famille, un peu fermée certes, mais les pauvres, pour peu qu'on les y pousse, ne demanderaient pas mieux que d'en faire partie. C'est à nous, les nantis, qu'il appartient d'aider nos frères les plus démunis à s'intégrer dans nos rangs. La coupe est pleine. Prenons-y garde, frères riches. La colère gronde au sein des masses. C'est véritablement un scandale et probablement une contrepèterie. Cherchez pas, il n'y en a pas. Il y a des abus qui ne sont plus tolérables. Moi-même, qui suis un anti, quand j'analyse honnêtement mon propre cas, j'ai honte. Quand je pense qu'en une soirée, je gagne l'équivalent de 3 mois de salaire d'un ouvrier qualifié, alors que, dans le même temps, à 3 pas d'ici, Guy Bedos gagne l'équivalent de 6 mois de salaire d'un cadre supérieur. Il n'y a pas de justice sociale. La solution, elle est simple. Il suffit de prendre aux riches pour donner aux pauvres, et vice-versa. En temps de paix, par exemple, les riches auront le droit de prendre la sueur au front des pauvres, et en temps de guerre, les pauvres auront le droit de prendre la place des riches, au front également. Il me semble qu'avec mes idées généreuses, je ferais un excellent président de la République. J'ai dit à ma femme, « Tu ne trouves pas que j'ai l'étoffe d'un chef d'État et puis j'ai le bras long ?» Elle m'a dit, « Si tu as l'étoffe et le bras long, tu coupes les manches et ça te fera un petit boléro. »
Il y a misère et misère. Il y a la misère éclatante qu'on nous trompette avec fracas, qui s'étale à nos unes et s'agrippe à nos remords, qu'on nous serre dans la soupe et qui nous éclabousse. C'est la faim fiévreuse des agonisants sur le sable et les maladies rongeuses, la lèpre avec moignon sur rue et le crabe invaincu, le crabe aux pinces noires à nous manger le ventre et les génocides, un peu trop loin pour qu'ici l'on soupire, mais les génocides bien sûr, et la pauvreté des villes aux usines fermées et les enfants d'Orient, moins hauts que leurs fusils qu'on fait trotter au front. Et puis, il y a la misère de série B qui ne vaut pas le détour. D'ailleurs, on ne la voit même pas. C'est la misère des petites annonces. Pas forcément des petites annonces du cœur, du sexe ou de l'âme. Voyez celle-ci qui m'est tombée sous l'œil par hasard dans la rubrique « Divers ventes » d'une revue spécialisée dans les métiers du spectacle. « À vendre mannequin ventriloquie, système américain invisible, garçonnet de 6 ans, vrais cheveux, smoking bleu nuit, vernis noir, matériel de professionnel, prix 12 000 francs. » Suivait un nom et un numéro de téléphone. Le ventriloque avec marionnette est une attraction qui prolongea pendant quelques années à la télévision l'engouement qu'elle avait suscité au temps du cinéma familial, où elle avait tout loisir de s'exprimer entre les Esquimaux et le documentaire. Les plus doués ou les plus chanceux survivent encore dans des cabarets emplumés où le personnel zélé profite du peu d'intérêt qu'il suscite pour renouveler les consommations pendant que les girls changent de cache-sexe. Généralement, l'humour suranné de ces fantaisies hypogastriques met en boîte des chanteurs morts sous Pétain ou un ministre de la 4e République, ou bien encore ranime-t-il soudain l'anachronique conflit entre le gendre et la belle-mère. Le tout servi avec une voix de canard meurtrie insultante aux portes qui grincent, à des publics texans ou nippons accourus en ces lieux pour voir bouger des culs pailletés. Alors un soir, ou bien plutôt à l'aube, en sortant du Paris Folies par la porte de derrière, pour que les belles dames et les messieurs bien mis ne voient pas les marques pelées de sa misère sur son manteau de drap, le ventriloque se dit qu'il en a marre. Il ouvre sa voiture gamelle pour rentrer à Saint-Denis. À la place du mort, il dépose avec douceur le pantin rigolard qui s'appelle Philémon, quelquefois Roudoudou. Ce soir, il oublie de lui attacher sa ceinture, mais il lui demande comme ça, par réflexe, et puis d'ailleurs il n'a personne à qui parler, « Et toi, Philémon, t'en as pas marre de faire le con tous les soirs de la vie pour ces gens qui s'en foutent ?» Le ventriloque et son pantin n'iront plus au Paris Folies. Le ventriloque ira vivre chez son fils qui a réussi dans les affaires. Il habitera dans le petit pavillon au fond du parc à Saint-Rémy-les-Chevreuses. L'été, il soignera les roses et gardera les meubles de style et les grands crus classés quand les enfants seront aux îles. L'hiver, il attendra l'été. Et comme il a sa dignité, il va vendre le pantin Philémon pour pouvoir s'acheter du mazout. Alors le ventriloque prend dans ses bras le pantin Philémon, qui est son enfant. C'est lui qui l'a fait. C'est lui qui lui a collé les vrais cheveux, un à un. C'est lui qui lui a cousu le smoking bleu nuit et le système américain invisible. Il l'allonge doucement sur la table à repasser. Avec une brosse à dents, la même depuis 35 ans, monsieur, il fait briller une dernière fois les vernis noirs. Et puis, avec toujours la même délicatesse, il couche le pantin Philémon dans la mallette satinée qui lui servait jadis pendant les tournées des cinémas de campagne. Et il ferme lentement le couvercle qui claque à peine dans un chuintement ouaté. C'est comme un bruit définitif de cercueil élégant. Et le ventriloque se lève. Il se sent vieux. Il téléphone aux petites annonces avec une voix de canard.
Je suis individualiste de façon assez hystérique. J'aime pas les groupes, j'aime pas les groupements, j'aime pas les mouvements de foule, j'aime pas les gens qui font... Plusieurs personnes font la même chose ensemble, j'ai toujours l'impression, peut-être fausse, mais que plus les gens sont nombreux physiquement, plus leurs intelligences se divisent dans l'autre sens. Vous savez, Brassens disait, qui était pour moi un des grands humanistes du siècle, disait que quand on est plus de 4, on est une bande de cons. Alors je pense qu'à fortiori, moins de 2, c'est l'idéal. J'ai un goût peut-être du paradoxe, mais qui est inconscient, c'est un refus viscéral de ce que font les autres, c'est idiot. J'ai l'impression que j'existe pas si je suis pas contre les autres quelquefois. C'est un signe de bêtise.
Extrait de Fond de tiroir, Le mépris.
Monsieur, vous ne respectez rien, dit le silencieux majoritaire au saltimbanque irrévérent. Vous raillez mon travail, insultez ma famille et charriez ma patrie. Vous ricanez de mes idolâtries en croix, de mes rabbins frisés, de mes prophètes enturbanés. Vous pouffez sur mes drapeaux froissés et sur l'honneur au champ duquel tombent mes enfants sacrifiés. National ou populaire, vous vous moquez du front. Mais le peu d'estime que vous inspire la République ne vous retient pas de narguer dans le même panier les Bourbons écartés, les Orléans démis ou les Habsbourg d'Autriche-Hongrie. Vous appelez un chat un chien et donnez aux longues et cruelles maladies des noms de crabes nécrophages qui font peur aux transis. Vous n'avez nul souci de la sueur ouvrière ni des sursauts boursiers. Et pire que tout, monsieur, il me revient de source sûre que vous ne jeûnez même pas le jour de la Sainte Coluche. Et pire que tout, monsieur, il me revient de source sûre que vous ne jeûnez même pas le jour de la Sainte Coluche, dont le nom béni reste au rang du cœur enfoiré de la France profonde. Je vous le redis, monsieur, vous ne respectez rien.
Permettez-moi de vous contredire, s'écrit l'iconoclaste assis sur les valeurs admises. Il est vrai que je ne respecte rien, n'en prenez pas ombrage, et veuillez bien me croire. J'ai le plus profond respect pour le mépris que j'ai des hommes.
On va dire quelques citations, honneur aux femmes, sur le rire.
Peut-on rire de tout ? Peut-on rire avec tout le monde ? À la première question, je répondrai oui sans hésiter. À la deuxième question, je répondrai c'est dur. Je conclurai ma réflexion zygomatique en répétant inlassablement qu'il vaut mieux rire d'Auschwitz avec un juif que de jouer au Scrabble avec Klaus Barbie.
Sur son côté misanthrope, plus je connais les hommes, plus j'aime mon chien. Plus je connais les femmes, plus j'aime ma chienne.
Un bon voisin est un voisin mort, Diogène.
Quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf, du cocon, tous les jeunes blancs becs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont devenus des têtes chenues, des grisons, tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Moi qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père, quand on est con, on est con. Entre vous, plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Vous les cons naissants, les cons innocents, les jeunes cons, qui ne le niez pas, prenez les papas pour des cons. Vous les cons âgés, les cons usagés, les vieux cons, qui confessez-le, prenez les petits bleus pour des cons. Méditez l'impartial message d'un qui balance entre deux âges. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père, quand on est con, on est con. Entre vous, plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan.
Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal.
Françoise Sagan, comment ça va, la petite santé ?
Très bien, merci, ça va très bien.
Oui, vous allez bien.
Oui, ça va très bien.
Il n'y a pas de problème ?
Non, allez, j'ai même comme tout Paris, mais...
Et les vacances ? C'était bien vos vacances ? Vous étiez en vacances, là, je sais pas où.
Ah non, là j'étais pas en vacances, je travaillais là.
Non mais avant...
Avant de travailler, j'étais...
Avant de travailler, vous étiez
en vacances. Forcément, oui, c'était... Il a fait très beau.
C'est le beau temps aussi.
Oui.
Moi je suis allé... J'ai mon beau-frère qui est... près de Limoges, Joyer.
Ah oui, je connais bien, c'est très joli le Limoges.
Oui, ça monte, ça descend, c'est chouette. Il y a des cèpes, oui. Des champignons. Alors. En ce moment, c'est bien, les champignons. Et je me suis bien marré avec mon beau-frère. Parce que, là, je vais vous montrer, j'ai des photos. Je les ai là, tiens. C'est des photos qu'on a fait avec... quand j'étais en vacances, avec mon beau-frère. Ça, c'est moi, là.
Non, c'est un chien, là. Fait trop...
Pardon ?
C'est un chien, là. C'est pas vous, c'est un chien, là.
Ah oui, c'est mon chien, ça.
Ah bah pardon.
Oui,
c'est mon chien.
Un talent méconnu, Desproges romancier. Et oui, extrait de l'unique roman écrit par Pierre Desproges, Des femmes qui tombent, édité au Seuil, où l'on reconnaît son style humoristique et son goût pour l'absurde. Alors la situation, tandis qu'une étrange série de meurtres touche la population féminine d'un village, Jacques, médecin de campagne à tendance alcoolique, rend visite à l'un de ses patients, le garde forestier Andrieux. De retour à sa voiture, il fait une drôle de rencontre dans la forêt. Pour se dessouler un peu, Jacques avait laissé sa voiture à l'orée du bois et parcouru à pied le petit kilomètre de sentier qui le séparait de la maison d'Andrieux. Au retour, il ne parvint pas à redémarrer. Et la rage le prit, parce que tout à coup, lui revenait, en même temps que le courage de se voir en face, l'inquiétude mortelle de savoir Catherine loin de lui, exposée à l'incroyable génocide féminin qui s'étendait sur la ville. Aussi doué pour la mécanique qu'un manchot hydrophobe pour la brasse papillon, il entreprit de se calmer les nerfs en tapant du poing sur la carrosserie de la voiture avant de soulever le capot de Guerlas et, à tout hasard, dans le vague but de compter les moteurs. « Vous fatiguez pas, mon vieux ?» dit une forte voix mâle qui venait du sous-bois. « C'est la durite !» L'homme qui parlait ainsi, et qu'une lune aimable dans un ciel bleu pétrole éclairait doucement, parut à Jacques essentiellement quelconque. Taille moyenne, âge moyen,
Il avait une silhouette oubliable sur une tête impossible à retenir. Bref, un être plausible jusqu'à l'écœurement, vague comme un cousin. Curieusement, cet être banal était enfermé dans un imperméable et tenait au-dessus de sa tête un parapluie noir ouvert, attitude surprenante au milieu d'une nuit belle et bleue où nul stratus ne cumulait. « Qu'est-ce que vous foutez là ?» s'enquit Jacques. « Vous noterez que je pourrais m'estimer en droit de vous retourner la question ?» dit l'homme. « Je vous prie de m'excuser, monsieur, vous m'avez surpris. Pour votre voiture, vous cassez pas la tête, c'est la durite. » Et alors, qu'est-ce qu'elle a, ma durite? Je l'ai mangée. Je sais, j'ai eu tort, mais c'est plus fort que moi. Un peu plus, je bouffais vos pneus. Seule votre irruption inopportune en ce sous-bois m'en a empêché, borborigma-t-il en un roux abyssal. Je vous prie de m'excuser. C'est le bruit de mon estomac qui transforme le caoutchouc de votre durite en lipides, glucides, protides et sels minéraux. Surtout en glucides. Les glucides sont antidépresseurs. J'en abuse pour bafouer mes angoisses. Pour l'heure, monsieur, elles sont terribles. Quelles angoisses, insista Jacques, qu'une panique intérieure commençait à submerger. L'imminence de la pénurie de caoutchouc sur Ficus. Ficus, c'est le nom de ma planète. Bon, écoutez, mon vieux, vos conneries maintenant, ça suffit. Rendez-moi ma durite et foutez le camp. L'incohérence des propos de l'inconnu, l'incongruité de sa vêture hors saison, l'absurdité globale de la situation, amenèrent Jacques à se pincer discrètement la cuisse à travers sa poche pour s'assurer qu'il ne rêvait pas. Il connaissait trop bien les symptômes du délirium tremens, agitation désordonnée, tremblement convulsif, état fiévreux, dont il appréhendait avec une joie malsaine de voir apparaître en lui les premiers signes alarmants pour être certain que ce n'était pas en train de lui arriver. Les intoxiqués alcooliques atteints de délirium vivent en outre un délire onirique plus souvent peuplé de brontosaures bicéphales ou de rats morveux couverts d'impédigo que de fonctionnaires quadragénaires noctambules. Il sentit sa raison vaciller dangereusement. « Vous pourriez au moins être vert, » commenta-t-il, « et soyez gentil de fermer ce parapluie. »« Justement, non. Je ne peux pas le fermer. Ce serait trop dangereux. » « Je suis soluble dans l'eau, monsieur », expliqua-t-il avec la gravité prudente qu'on réserve aux grands cardiaques pour leur annoncer que leur famille vient d'être décimée dans un atterrissage aux Baléares. « Mais il est tard, monsieur. Je dois me sauver avant l'aube. » « Comme les sorcières », pensa Jacques. Avec quelques secondes d'hésitation hébétée, Jacques se lança à sa poursuite. Mais l'alcool, la fatigue et l'air froid de la nuit l'avaient sonné à mort, plus sûrement qu'un coup de bûche à l'oreille du lapin. Les jambes en coton et la tête en bois, il n'avait pas fait trois bonds d'un galop grotesque que la première racine saillante lui crocha le pied. Le nez dans la mousse, plus ivre que mort et plus mort que vif, il s'endormit violemment, d'un sommeil épais et tonitruant.
Étonnant, non ?
Épanouissons notre libido à l'intérieur des liens sacrés du mariage. Extrait de la minute nécessaire de Monsieur Cyclopède. En amour, on est toujours deux. Un qui s'emmerde et un qui est malheureux. Que nous soyons l'un ou l'autre, c'est à l'intérieur des liens sacrés du mariage et nulle part ailleurs que nous devons épanouir notre libido, ne serait-ce que pour limiter au maximum les risques d'excommunication.
Et le mépris des voisins.
Et le mépris des voisins. C'est pourquoi, afin d'exulter à la maison, nous devons apprendre les 32 positions de l'amour. Aujourd'hui, première position, regardez bien.
Alors, ça là, n'est-ce pas? Et ça là, voyez-vous?
Comme ça?
Non, pas comme ça, comme ça.
Comme ça?
Oui, c'est très bien. C'est très très bien.
En effet, c'est épatant. Vraiment épatant. Ah oui, ah oui. Ah oui, oui. Étonnant, non ?
Vulgaire, le mot vulgaire, ça vient du latin. Vulgus, qui veut dire commun. Ça ne veut pas dire grossier, ça veut dire commun. Bedos me disait un jour, il y a des gens, ils ont une certaine façon de dire bonjour qui sent plus mauvais que le mot merde dans la bouche de gens raffinés. Voilà.
La rumeur.
Et sale et glauque et grise, insidieuse et sournoise, d'autant plus meurtrière qu'elle est impalpable. On ne peut pas l'étrangler. Elle glisse entre les doigts comme la muqueuse immonde autour de l'anguille morte. Elle sent, elle pue, elle souille. C'est la rumeur. Répondez-moi franchement, est-ce que oui ou non j'ai l'air contagieux ?
Je vous pose la question parce que le bruit court que j'ai le sida. Ça m'est revenu de la bouche d'un PD, le bruit, pas le sida. Qui le tenait d'un autre PD, le sida, pas le bruit. Ce garçon, le PD de la bouche duquel m'est revenu le bruit, m'a dit que l'autre garçon, le PD qui avait refilé le sida au PD par lequel m'est revenu le bruit, lui avait dit que Rick Azaray, qui est actuellement avec Le Pen, ne le répétait pas, racontait partout que j'avais le sida. C'est dégueulasse. Dieu m'embrasse si possible, pas sur la bouche, on ne sait jamais. C'est ça, la rumeur. La rumeur, c'est le glaive merdeux souillé de germes épidermiques que brandissent dans l'ombre les impuissants honteux. Elle se profile à peine au sortir des égouts pour vomir ses miasmes poisseux au brouillard crépusculaire des hivers bronchiteux. Elle nous dit « Rappelez-vous que les Pompidou sont d'inquiétants paillards, que la chanteuse Sheila n'est pas une femme, que Simone Signoret n'est pas capable d'écrire ses livres toute seule. » Plus menteuse que la rumeur, tu meurs. Elle s'en fout. Elle a éjaculé son venin répugnant jusque dans Orléans, où des hyènes anonymes susurraient naguère sans frémir que les femmes qui entraient dans certains magasins tenus par les juifs de la ville disparaissaient à tout jamais vers d'introuvables bordels orientaux. Et puis, comme le monstre du Loch Ness, la rumeur fait son rôle et retourne à sa vase.
Un critique de film écrivait récemment, à propos, je crois, d'une comédie de Claude Zidi, deux points, ouvrez les guillemets, avec des pincettes. C'est un film qui n'a pas d'autre prétention que celle de nous faire rire. Qui es-tu, zéro flappy, pour te permettre de penser que le labeur du clown se fait sans la sueur de l'homme? Qui t'autorise à croire que l'humoriste est sans orgueil? Mais elle est immense, mon cher, la prétention de faire rire. Un film, un livre, une pièce, un dessin qui cherche à donner de la joie. À vendre de la joie, faut pas déconner non plus. Ça se prépare, ça se découpe, ça se polie. Une œuvre pour de rire, ça se tourne comme un fauteuil d'ébéniste ou comme un compliment, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, avec ce trou béant dans ta boîte crânienne.
Je ne suis pas à proprement parler ce qu'on appelle un maniaque. Simplement, j'aime que tout brille et que tout soit bien rangé. Quand je rentre à la maison, la première chose que je fais, c'est de me servir du thé. Je me verse moi-même le thé, bien au milieu du bol. Le sucre doit être vertical, sinon c'est le bordel. Ensuite, je range le bureau, le chien, les gosses et j'astique le zèbre. J'ai toujours eu des zèbres, j'aime beaucoup les zèbres, les rayures sont bien parallèles. J'aime que les choses soient parallèles. Je n'apprécie rien tant que cet instant trop éphémère, hélas, où ma montre à quartz indique 11h11. Que voulez-vous, j'aime l'ordre. C'est un besoin de clarifier les choses dans ma pauvre tête de perturbée congénitale. Pensez, je suis dyslexique, je confonds les T et les F, c'est chiant. Et ce n'est là que la moindre de mes tares. Il y a plus grave. Je suis névrosé et psychotique. Ce sont deux désordres extrêmement perturbants quand ils cohabitent pour reprendre le cri d'amour du crapaud. Savez-vous seulement quelle différence il y a entre un psychotique et un névrosé ? Un psychotique, c'est quelqu'un qui croit dur comme fer que deux et deux font cinq et qui en est pleinement satisfait. Un névrosé, c'est quelqu'un qui sait pertinemment que deux et deux font quatre et ça le rend malade. J'en ai parlé à mon psy. Au départ, je n'étais pas très chaud. D'abord, je trouve ce genre d'exhibition publique tout à fait impudique. Et puis, c'est cher, les thérapies de groupe. Or, mon argent aussi, j'aime qu'il soit bien rangé. On évalue ma fortune actuelle à 1 111 111 francs. C'est un bon chiffre et je m'y tiendrai. Aussi vrai que deux et deux font... quatre... Alors mon psy m'a dit « Mais non, pauvre enculé, nous sommes très liés. Mais non, ça te coûtera rien, au contraire, pour la thérapie de groupe, donne-toi un spectacle, c'est toi qui seras payé. » C'est pourquoi, mesdames et messieurs, je vous ai prié de venir tous ici ce soir pour me regarder faire mon intéressant.
Ça peut pas faire de mal.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Guarda lì, dai treni in corsa si sbilanciano, in canottiera ti sorridono. Comedy, comedy orchestra illusa Napoli, e poi sgridata Minneapoli. Comedy, danger, a La comédie d'un jour, d'un jour ta vie. La comédie, la comédie, la comédie. Wah 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 wah.
Quelques citations sur la littérature.
La littérature est à la civilisation ce que la queue est à la casserole. Quand il n'y en a pas, l'homme a l'air con. José Maria Tefal.
Sur l'intelligence. L'intelligence, c'est comme les parachutes. Quand on n'en a pas, on s'écrase.
L'écriveur. Ce matin de juin, j'écris dans un transat, au fond du jardin anglais, que le soleil levant caresse voluptueusement pour en essuyer la rosée. À portée de main sur un guéridon de paille tressée, le thé aux herbes tiédit à la brise. Le bouvreuil effronté qui m'espionnait hier déjà sautille et pirouette à trois pas en stridulant des joliesses absconses dont j'appréhende cependant qu'elle veuille dire « Tire-toi de là, bonhomme, que je finisse les miettes de ton croissant qui sont tombées dans l'herbe. » Et bon, comme l'oiseau, j'ai la plume frivole et baladeuse et tendance à papillonner autour du sujet, sans m'y soumettre, voire même à en m'en écarter carrément. Ce qui est pénible avec les livres, je veux dire quand on les écrit, c'est qu'on est plus ou moins poussé à s'en tenir au sujet qu'on prétend traiter. Il faut savoir que cette contrainte est parfois très pénible quand elle s'abat sur un auteur velléitaire par nature, incohérent par goût et facilement déconnectable par l'imprévu, en l'occurrence ce petit pédé de bouvreuil qui fait rien que frétiller de la queue pour m'empêcher d'aller plus loin. Dieu merci, quand on se contente de penser au lieu d'écrire, on a parfaitement le droit de sauter du coq à l'âne sans s'attirer des remarques désobligeantes. J'aurais dû être dérouleur de pensée plutôt qu'écriveur de bouquins.
Remettons le petit prince à sa place. De nombreux sous-doués boursouflés d'inculture me demandent pourquoi la Vénus de Milo et le petit prince de Saint-Exupéry étaient fâchés à mort. C'est simple, revoyons les faits. La Vénus de Milo avait mauvais caractère.
J'ai pas de bras, c'est pas le pied.
Le petit prince, lui, était un fort bel enfant aux grands yeux émerveillés par la beauté des choses. Je suis un fort bel enfant aux grands yeux émerveillés par la beauté des trucs. Des choses. La rencontre du petit prince et de la Vénus de Milo dégénéra très vite en drame. Regardez. Bonjour Vénus de Milo.
Bonjour petit prince.
S'il te plaît, dessine-moi un mouton.
C'est malin petit con.
Étonnant, non? Extrait du deuxième spectacle créé au Théâtre Grévin le 1er octobre 1986. Au vertige de la penderie béante sur l'alignement militaire des pelures incertaines aux senteurs naphtalines. Je hais les cintres. Le cintre agresse l'homme. Par pure cruauté. Il y a des objets qui agressent l'homme parce que c'est leur raison d'être. Prenez la porte. Non, ne partez pas, c'est une façon de parler. Prenez la porte, une porte. Il arrive que l'homme prenne la porte dans la gueule. Bon, mais il n'y a pas là la moindre manifestation de haine de la part de la porte à l'encontre de l'homme. Le cintre, lui, est foncièrement méchant. Personnellement, l'idée d'avoir à l'affronter m'est odieuse. Il arrive cependant que la confrontation homme-cintre soit inévitable. Quelquefois, plus particulièrement au temps froid, l'envie de porter un pantalon se fait irrésistible. L'homme prend alors son courage et la double porte du placard à deux mains. Il est seul, il est nu, il est grand. Son maintien est digne face au combat qu'il sait maintenant inéluctable. Son buste est droit, ses jambes légèrement arquées, ses pieds nus arc-boutés au sol. Comme un pompier face au feu, il est beau dans sa peur. Les portes du placard s'écartent dans un souffle. Les cintres sont là, accrochés à leurs tringles dans la pénombre hostile. On dirait une rangée de vampires. Cependant, l'attitude de l'homme n'est pas menaçante. Simplement, il veut son pantalon. Le gris, avec des pinces devant,
et le petit revers. L'œil averti de l'homme a repéré le pantalon gris. Il est prisonnier du troisième cintre en partant de la gauche. C'est un cintre dangereux, particulièrement sournois. Oh, il ne paie pas de mine. En bois rose, les épaules tombantes, il ferait plutôt pitié. Mais regardez bien son crochet. C'est une poigne de fer. Elle ne lâchera pas sa proie. L'homme bande, surtout ses muscles. Il avance d'un demi-pas feutré pour ne pas éveiller l'attention de l'ennemi. C'est le moment décisif. Avec une agilité surprenante pour un homme de sa corpulence, l'homme bondit en avant. Sa main gauche, vive comme l'éclair, repousse le cintre pendu à gauche du cintre rose, tandis que sa main droite se referme impitoyablement sur ce dernier. La riposte du cintre est foudroyante. Au lieu d'accentuer sa pression sur la tringle, il s'en échappe brutalement, entraînant dans sa chute le pantalon, le gris avec les pinces devant et le petit revers, celui-là même que l'homme veut ce matin parce que bon. À terre, le cintre rose est blessé. Rien n'est plus dangereux qu'un cintre blessé. L'homme à présent est à genoux, dans le placard. De sa gorge puissante monte le long cri de guerre de l'homme dépendri. « Putain, bordel de merde de cintre à la con, chier !» Le cintre rose a senti le désarroi de l'homme. Il va l'achever. Il s'accroche dans le bois d'un autre cintre tombé qui s'accroche à son tour dans la poignée d'une valise. Il fait noir. La nuit, tous les pantalons sont gris. L'homme, vaincu, n'oppose plus la moindre résistance. Le nez dans les pantoufles, il sanglote. Dans la position du prieur d'Allah, la moitié antérieure de son corps nu, prisonnière du placard, l'autre offerte au regard de la femme de ménage espagnole. Il souffre. Quelques gouttes de sueur perlent à sa paupière. Il n'est qu'humilité, désespoir et dégoût. Quelques couilles de plomb pendent à son derrière. Il a soif, il a froid, il n'a plus de courroux. « Donne-lui tout de même un slip, » dit mon père.
À la guerre, il est très important de reconnaître l'ennemi. Car sans ennemi, la guerre est ridicule. Comment reconnaître l'ennemi ? C'est simple. Comme vous le voyez, l'ennemi a des oreilles. Il n'est pas contagieux, mais il est héréditaire. Il est sot. Il croit que c'est nous, l'ennemi, alors que c'est lui.
Et c'est lui qui le dit qu'il y est.
Quelquefois, l'ennemi essaie de se déguiser en géranium. Mais on ne peut pas s'y tromper. Tandis que le géranium est à nos fenêtres, l'ennemi est à nos portes.
Je suis fait.
Étonnant, non ?
Extrait du dernier spectacle inachevé, toujours édité au Seuil, Le Trac.
Vous pouvez pas savoir le trac que j'ai ce soir. J'ai jamais connu ça avant. À ce point, je veux dire. C'est horrible. Je sens que je vais avoir un trou. Pouf, pouf. Le plus souvent, le trac naît d'un sentiment confus de respect, d'estime, de considération, de gratitude de l'artiste pour son public. Il est bouleversé à l'idée que tous ces gens se sont déplacés pour lui, alors que si ça se trouve, il y a Bedos chez Sabatier sur la 5. Touché à cœur par cet immense amour que son public lui porte, l'artiste a justement peur de n'en être pas digne. Il a le cochonnet. Pouf, pouf. Il a les boules. C'est le trac.
Et écrit toujours pour son dernier spectacle, resté inachevé, ce texte, à propos de Claudel, fait tomber les masques derrière l'humoriste, le poète.
Le jour de la mort de Coluche, j'ai eu beaucoup de peine. Alors que, je ne sais pas pourquoi, le jour de la mort de Dalida, j'ai repris deux fois des nouilles. Pourquoi riez-vous ? J'aimerais tellement vous émouvoir. Remuez en vous le meilleur du miel. Décapez d'un coup de cœur vos émotions qui rouillent au vent mouillé de vos journées stériles et vierges de tout émoi chagrin. Ressuscitez en vous le droit à la mélancolie qui n'est plus, elle non plus, ce qu'elle fut. Car la mélancolie dont le poète a dit qu'elle était le bonheur des tristes n'est plus de mise en face des écrans blêmes sur guéridon où nous tentons en vain de nous réchauffer l'âme en frottant nos sensibilités polaires aux cardiogrammes plats des feuilletons mornés de nos soirs halogènes. Qu'est-ce qu'il a de plus que moi, Paul Claudel ? Qu'est-ce qu'il a de plus que moi qui vous troue les nippes ? Pouf, pouf, et qui vous noue les tripes ? Mais enfin, ne devinez-vous pas, foule ingrate et futile, ne comprenez-vous pas que sous le nez rouge du clown, c'est le cœur gonflé d'amour d'un être exquis et doux qui bat tout bas, qui bat tout bas, qui bat tout bas.
On me dit que des juifs se sont glissés dans la salle. On pouvait rester, hein. N'empêche que on ne m'ôtera pas de l'idée que pendant la dernière guerre mondiale, de nombreux juifs ont eu une attitude carrément hostile à l'égard du régime nazi.
Je suis né en 1939. De savoir que je suis né à cette époque-là, qu'il s'y est passé ce qui s'est passé vis-à-vis des juifs, c'est un truc que j'ai toujours pas compris au sens fort. C'est-à-dire même que je ne comprends pas Dieu.
Ouais.
Dieu ou non Dieu, j'arrive pas à comprendre. Que des gens, des administrateurs, justement, envoyer des gens par paquet de mille se faire oxyre au nom du racisme, c'est un truc, je ne comprends pas que mes parents, par exemple, aient vu ça. Alors, je n'ai jamais compris avec ma sensibilité et mon intelligence, c'est que je ne peux pas comprendre. Comprendre, je ne dis même pas admettre, mais comprendre que ça puisse arriver. Et en même temps, j'ai très peur que ça revienne. Je trouve ça fabuleusement inimaginable que des êtres humains puissent commettre ça.
On n'a pas tout dit sur les horreurs et les atrocités commises par ces gens-là. Prenez Hitler, par exemple. Eh bien, savez-vous que non seulement Hitler était nazi, mais en plus, quand il était en vacances, il faisait pipi dans la mer.
Et Tonich ! Nein !
L'œuvre de Pierre Desproges est tentée par la maladie et la mort. Peut-on rire de tout ? S'interrogeait l'artiste. Voici quelques passages sur le cancer qui montrent combien l'humour est une arme contre la peur. Plus cancéreux que moi, tu meurs. S'il n'y avait pas la science, malheureux cloporte suintant d'ingratitude aveugle et d'ignorance crasse, s'il n'y avait pas la science, combien d'entre nous pourraient profiter de leur cancer pendant plus de 5 ans ? Normalement, quand un artiste est rappelé par son public, il lui ressort quelque chose qui l'a rendu célèbre, cet artiste. Et moi, rien ne m'a jamais vraiment rendu célèbre. Ah si, eh bien un truc qui m'a rendu célèbre, un peu. Mais dans ma famille surtout. C'est-à-dire que j'ai un petit talent d'imitateur. Enfin, je n'imite que les gens de ma famille. Et quand on ne connaît pas les gens de ma famille, c'est pas tellement drôle. Ah si, il y a un truc assez marrant que je peux faire. Je peux vous imiter mon père qui a un cancer de la gorge, si vous voulez. Mais je vous préviens, en général, ça fait marrer que mes gosses. C'est pas évident d'imiter l'accent cancéreux, surtout quand on n'a pas de cancer. J'ai pas de cancer, j'ai pas de cancer. Et entre nous, l'accent allemand, c'est nul, alors que l'accent français, lui, est magnifique. Les accents français. Parce qu'attention, on en a plein, nous, des accents. Oh là là, plein. Tous très beaux. Prenez l'accent provençal, par exemple. Il coule une telle tendresse dans la chanson des mots. Cela sent si bon le thym, le romarin, la farigoule et le verbe d'antan. Si, c'est vrai. Mon médecin est originaire d'Aix-en-Provence. Il exerce à Paris actuellement, mais il est originaire de là-bas. Et il est le premier à reconnaître que son accent chaleureux et rassurant contribue pour beaucoup à attirer les patients chez lui, plutôt que chez n'importe quel connard de médecin de Dunkerque avec la mer du Nord pour dernier terrain vague. Oui. D'ailleurs, je suis allé le voir il n'y a pas une semaine. J'avais des malaises pas clairs, pas nets. Enfin, j'étais bouffé d'angoisse. Je savais pas ce que j'avais. Je suis allé le voir, il m'a fait déshabiller, il m'a ausculté. Je quêtais son diagnostic. Docteur, alors, qu'est-ce que j'ai ? Je vous dis, j'étais bouffé d'angoisse. Et lui, avec sa bonne trône méridionale, qui s'est illuminée devant moi, il a posé son stéthoscope, il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit « Ah putain !» Ah putain, c'est le cancer.
Les gens qui ont peur de la mort font toujours référence à l'heure. Ils regardent qu'est-ce qui se passe. Ils se situent tout le temps dans le temps qui passe. Moi, quand je me couche, je me dis chouette, j'ai tant d'heures à dormir, j'ai plus de temps d'heures.
Toi, ta propre mort, c'est un sujet qui revient à certaines périodes.
Tout le temps, tous les jours, toutes les demi-heures.
Tout le temps, sans arrêt.
Oui, enfin non, je m'arrête pour dormir. Chaque fois qu'il m'arrive quelque chose de bien, je me dis c'est dommage qu'il va falloir mourir après ça, tu vois.
Écrit en ouverture de son premier spectacle au Théâtre Fontaine à Paris en 1984, le texte qui va suivre apparaît aussi comme un émouvant adieu à la scène, à la vie. Je baisse.
J'espère que vous regretterez pas d'être venu. Enfin, je veux dire, j'espère que vous le regretterez pas autant que je le regrette moi-même. Je veux dire qu'en ce qui me concerne, j'aimerais mieux être ailleurs. Parce que je n'ai ni envie de rire, ni envie de vous faire rire. À l'heure où je vous parle, je ne sais pas si ça se voit, je m'emmerde profondément. Puis je me sens extrêmement gêné d'être ici, debout, comme un con devant vous, qui êtes là, assis, comme des cons. Ayant reçu une éducation bourgeoise, discrète et feutrée, au cours de laquelle m'ont été conjointement inculqués le respect des bonnes manières et le mépris de toutes les formes de vulgarité, vous comprendrez aisément ce qu'il peut y avoir d'humiliant pour moi dans le fait de m'exhiber ainsi devant un parterre de zozos, plus ou moins rigolards, dont la plupart, si ça se trouve, ne sont même pas de mon milieu social. Pour ne rien arranger, j'ai horreur qu'on m'applaudisse, je vous le dis tout de suite. L'applaudissement, c'est jamais qu'une manifestation tout à fait instinctive du système nerveux cérébro-spinal par laquelle le chimpanzé ou la ménagère manifestent leur joie frénétique incontrôlée à la vue d'une banane ou de Julio Iglesias. C'est vrai, à la seule idée que vous pourriez m'applaudir, j'ai déjà honte pour vous. Je regrette vraiment de devoir dire ces choses à des gens qui se sont déplacés, pour certains d'assez loin, dont le seul but d'oublier un instant leur métastase et l'invasion désormais imminente de notre pays par les forces du pacte de Varsovie. Mais bon, vu la tournure que ça prend, il me semble que ce serait plus raisonnable pour moi que je m'en aille maintenant. Je pense que je vais aller me détruire. D'ailleurs, il est beaucoup trop tard pour aller draguer au rayon lingerie des Galeries Lafayette. Vous rigolez ? Mais je vais vraiment me détruire, hein. D'abord, j'aime beaucoup la mort. Et puis, je suis un homme fini. Je suis entré dans l'âge mûr, et l'âge mûr, par définition, c'est l'âge qui précède l'âge pourri. Physiquement, alors, c'est pire que tout. Physiquement, je baisse. Je sens bien depuis quelque temps que je m'essouffle beaucoup trop bruyamment, anormalement, dans certains escaliers trop raides ou dans certaines femmes trop molles. Ah bah oui, je baisse. C'est plus vivable. Autant en finir.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission, réalisée par Xavier Pestudia avec Jean-Michel Bernou à la technique, a été préparée par Estelle Gapp, Léla Kouroussi-Liqua, Perrine Malinge et Claire Tesser. Bon réveillon et bonne année.